Présence.
L'heure mariale, l'enseignement.
Avec le père Régis-Marie de la Tessonnière, chapelain du sanctuaire de Lourdes, nous revisitons le message de la Vierge Marie à Sainte Bernadette.
Je vous dis cela pour votre prière. Il y a donc 18 apparitions de Marie à Bernadette. Lors des 7 premières apparitions, le visage de Bernadette est rayonnant de lumière, de joie, de bonheur. Les 4 apparitions suivantes, donc la 8e, 9e, 10e, 11e apparition, Bernadette montre ce visage dur, ce visage douloureux, ce visage triste. Ces 4 apparitions correspondent au mystère douloureux de notre rosaire. Et les 7 dernières apparitions, donc de la 12e à la 18e apparition, les 7 dernières apparitions correspondent, Bernadette est à nouveau rayonnante de bonheur, ces 7 dernières apparitions correspondent au mystère glorieux de notre rosaire. Effectivement, le 1er mars, c'est le jour de la 12e apparition, Bernadette est à nouveau rayonnante de bonheur. Ce jour-là, une femme des environs de Lourdes, elle vient de Loubajac, c'est à 8 km de Lourdes, elle s'appelle Catherine Latapie, on l'appelle aussi Catherine Chouatte, du nom de sa maison. Catherine Latapie a eu un accident quelques années auparavant, et elle a le bras droit paralysé. Elle vient donc à la grotte et voici que mettant son bras droit au contact de l'eau de la source, elle est guérie. Elle retrouve concrètement, physiquement, l'usage de son bras droit au contact de l'eau de la source, comme Bernadette avait elle-même, symboliquement, retrouvé l'usage de son bras droit en recevant de Marie le tout premier signe de la croix lors de la toute première apparition. Le lendemain, c'est le 2 mars, c'est le jour de la 13e des 18 apparitions. Ce jour-là, la petite demoiselle s'adresse à nouveau à Bernadette. Écoutez, allez dire au prêtre que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on vienne en procession. C'est donc la 7e des 8 paroles de Marie à Bernadette. Allez dire au prêtre que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on vienne en procession. Bernadette, avec sa simplicité coutumière, mais toujours déconcertante pour nous, Bernadette dira simplement « j'ai fait ma commission », c'est-à-dire qu'elle a été transmettre cette parole de Marie à monsieur le curé de Lourdes, monsieur le curé Péramal. Que veut dire cette demande de la Vierge Marie, construire une chapelle, venir en procession? Vous avez vu que des chapelles à Lourdes, il y en a beaucoup, des chapelles, des basiliques. Mais ces chapelles ne sont elles-mêmes que le signe de la chapelle véritable qui est l'Église. L'Église, nous dit le Concile Vatican II, c'est le peuple de Dieu, c'est le corps du Christ, c'est le temple de l'Esprit. Voilà ce qu'il nous faut construire, voilà ce qu'il nous faut édifier. Or, il y a un lien profond, un lien étroit entre la chapelle et la procession qui sont demandées. Et c'est d'ailleurs la même et seule et unique demande de Marie. Pourquoi ? Parce que c'est en se mettant en marche que le peuple de Dieu se constitue, comme vous faites vous-même en ce jour, dans cette démarche de pèlerinage. C'est en se mettant en marche que le peuple de Dieu se constitue. Ainsi, nous construisons l'Église, non pas seulement le dimanche matin à l'heure de la messe, mais à chaque fois que nous faisons quelque chose avec quelqu'un, nous est donnée la possibilité, peut-être, de construire l'Église. Voici pourquoi les 2 grandes processions qui ont lieu chaque jour à Lourdes, la procession eucharistique l'après-midi, la procession mariale au flambeau le soir, ces 2 grandes processions sont elles-mêmes le signe de la procession de chacune de nos vies. La procession de ma propre vie, commencée au jour de ma naissance, bien sûr, au jour de notre baptême, de notre confirmation, au jour de votre mariage, de votre engagement dans la vie professionnelle, dans tel ou tel bénévolat ou telle activité. Cette grande procession de chacune de nos vies qui nous conduit pas à pas à construire l'Église avec la multitude de nos frères et de nos sœurs en humanité jusqu'au moment de la rencontre avec Dieu, notre Père. J'avance un petit peu, nous sommes maintenant le 25 mars 1858, c'est le jour de la fête de l'Annonciation, c'est le jour de la 16e des 18 apparitions de Marie à Bernadette. Ce matin-là, très tôt à nouveau, Bernadette se rend à la grotte. Par 3 fois, elle demande, Bernadette, à cette petite demoiselle mystérieuse de bien vouloir lui dire son nom. Et voici qu'à la 4e demande de Bernadette, la petite demoiselle va étendre ses bras, puis joindre ses mains et regardant vers le ciel dira « Que soy era immaculada conception, je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette ne comprend rien, strictement rien à cette formule mystérieuse, mais tout le monde autour de Bernadette, pendant l'apparition et encore après l'apparition, comprend à voir le visage encore plus rayonnant de Bernadette qu'il s'est passé quelque chose d'encore plus extraordinaire. Voici pourquoi, tout de suite après l'apparition, Bernadette essaye de s'échapper en courant et surtout en se répétant cette formule mystérieuse pour ne surtout pas l'oublier. Voici pourquoi Ursule Nicolo, voyant Bernadette rayonnante de bonheur, l'arrête et lui demande « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Bernadette lui répondra simplement « Chut, ne le dis à personne, elle m'a dit que soy era immaculada conception, je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette part donc en courant, elle remonte vers la ville tout en se répétant cette formule mystérieuse pour ne pas l'oublier. Elle arrive au presbytère, elle ouvre la porte du presbytère, monsieur le curé est là, et Bernadette hurle « Que soy era immaculada conception, je suis l'Immaculée Conception ». Monsieur le curé est très étonné, lui dit « Mais qui t'a dit ça ?» Bernadette lui répond, c'est la petite demoiselle. Monsieur le curé lui dit alors, mais une petite demoiselle ne peut pas s'appeler comme ça. Va-t'en, je te reverrai plus tard. Docile, Bernadette s'en va, elle referme la porte. Monsieur le curé témoignera qu'à l'instant précis où Bernadette eut fermé la porte, il est tombé, lui, monsieur le curé Peyramale, à genoux, en larmes. Il l'a compris. Bernadette quitte donc le presbytère. Un peu plus loin dans la rue, elle rencontre une jeune femme qu'elle connaît. Cette jeune femme s'appelle Dominiquette Cazenave. Elle est la sacristine de la paroisse. Voyant aussi Bernadette rayonnante de bonheur, cette Dominiquette lui demande « Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» À nouveau, Bernadette lui dit « Chut, ne le dis à personne. » Elle m'a dit « Que soy era immaculada conception, je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette continue son chemin, elle se rend alors chez l'abbé Pomian, ce prêtre qui lui enseigne le catéchisme à l'hospice. Bernadette a retrouvé un petit peu ses esprits, elle fait une phrase en disant à l'abbé Pomian, tout à l'heure à la grotte, « La petite demoiselle m'a dit « Que soy era immaculada conception, je suis l'Immaculée Conception ». Et puis c'est tout, Bernadette rentre chez elle, tout ça se passait tôt le matin, elle arrive au cachot vers 8h du matin, elle retrouve le froid, l'humidité, la misère, le travail quotidien. L'après-midi, Bernadette se rend chez un homme qu'elle connaît. Cet homme s'appelle Jean-Baptiste Estrade. Il était proche de Bernadette lors de plusieurs des apparitions. Bernadette lui dit ce matin, la petite demoiselle à la grotte m'a dit « Que soy era immaculada conception, je suis l'Immaculée Conception ». Et ce monsieur, Jean-Baptiste Estrade, dira alors simplement « C'est donc la Sainte Vierge ». Alors je ne fais aucun commentaire, je laisse cela à votre réflexion, à votre méditation la plus profonde. Personne n'a dit à Bernadette ce que voulait dire cette formule mystérieuse. Je veux dire, ni monsieur le curé, ni l'abbé Pomian, qui connaissait le dogme de l'Immaculée Conception défini par l'Église 4 ans auparavant, en 1854. Personne ne dit rien à Bernadette. Mais surtout, Bernadette elle-même ne demande rien à personne. Voilà Bernadette, elle est transparente. Bernadette n'est pas propriétaire des apparitions. Bernadette n'a pas accaparé, gardé pour elle les paroles de Marie. Elle est transparente. D'ailleurs, Bernadette, qui a raconté les apparitions des milliers et des milliers de fois, concluait souvent ainsi, « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Je suis chargé de vous le dire, je ne suis pas chargé de vous le faire croire. » Et après la toute dernière apparition, Bernadette aura cette parole extraordinaire entre toutes, disant « Ce qui me regarde, c'est-à-dire ce qui me concerne, ce qui me regarde ne me regarde plus, ce qui me concerne ne me concerne plus. » Nous arrivons donc à la toute dernière, à l'ultime apparition, c'est le 16 juillet 1858. Cette dernière apparition est assez différente des précédentes, d'une part parce qu'elle n'a pas lieu le matin comme les autres, mais le soir, la nuit étant tombée, c'est-à-dire vers 10h30 du soir. Bernadette n'est plus directement à la grotte, mais de l'autre côté du Gave, loin de la grotte. Et voici la seule parole que Bernadette donnera pour témoigner de son ultime expérience. Écoutez, Marie, elle connaît donc son nom, Marie était plus belle que jamais. Vous voyez tout ce chemin parcouru par Bernadette. Lors de la première apparition, Bernadette a peur, elle est recroquevillée sur elle-même. À la toute dernière apparition, Bernadette est comme de plein pied avec la Sainte Vierge. Quelques semaines auparavant, c'était le 3 juin 1858, Bernadette a eu une joie immense. Bernadette a fait sa première communion. Bernadette fera sa première communion entre la 17e et la 18e apparition. Les 17 premières apparitions correspondent pour Bernadette au temps de préparation à sa première communion. Je termine en citant un verset de Saint Jean. Saint Jean, dans sa première épître, dit « un jour, ça veut dire bientôt, un jour nous verrons le Christ ». Nous, ça veut dire chacun, chacune d'entre nous. Un jour nous verrons le Christ tel qu'il est, ça veut dire dans toute sa gloire, dans toute sa lumière, dans toute sa splendeur. Un jour, nous dit Saint Jean, nous verrons le Christ tel qu'il est, car nous lui serons devenus semblables. Un jour, nous serons semblables au Christ, non pas par nos seules forces, certainement pas, non pas par nos propres mérites, encore moins, mais par les mérites de la croix de Jésus-Christ. Vous voyez, cette introduction au message de Lourdes, le message de Lourdes, c'est un résumé, un condensé de tout l'Évangile. Le message de Lourdes à la suite de l'Évangile nous rappelle que bien sûr qu'il y a de la misère dans chacune de nos vies, et moi je la connais, la misère de ma vie, mais dans chacun de nos cœurs, il y a infiniment plus. Nous portons tous en nous la vie même de Dieu, dont tous, un jour, nous vivrons pleinement, nous vivrons éternellement.
Le Père Régis Marie de la Tessonnière.
présence à Belmont-sur-Ance, 93.1.
L'heure mariale, la merveille de Lourdes.
Nous sommes en 1982. Pour des soldats de l'armée communiste polonaise, il n'est jamais agréable d'humer l'opium du peuple. Heureusement, l'ordre a été donné de faire stationner les blindés à une certaine distance de la messe qui se déroule à Częstochowa en ce matin d'été. Juchés sur les tourelles de leurs chars, ils se contentent de surveiller la cérémonie de loin, encerclant la ville sans l'assiéger, le canon pointé à tout hasard sur l'autel où officie Mgr Glemp, évêque de Cracovie et primat de Pologne. La religion, en Pologne, plus que dans tous les autres pays du bloc communiste, elle est le cauchemar des dirigeants et de tous les esprits dévoués à la doctrine marxiste. Dans un pays demeuré obstinément catholique, l'Église n'a même pas eu à se terrer dans les catacombes. Elle se tient debout, insolente, omniprésente. Chaque persécution semble la rendre plus forte, plus fidèle. Les séminaires délocalisés à l'étranger forment des légions de futurs prêtres. Crise des vocations ! En Pologne, cette expression n'a pas de sens. Certes, l'Église est pacifique. Les soldats préposés à la surveillance de cette messe célébrée pour le 600e anniversaire du sanctuaire de Jasna Góra à Częstochowa ne l'ignorent pas. Elle est pacifique, oui, mais elle a partie liée avec les agitateurs de Solidarnosc, le syndicat mené par Lech Walesa, devenu la bête noire du régime. Il y a 2 ans exactement, Solidarnosc a extorqué au pouvoir les accords de Gdansk qui autorisent la création de syndicats indépendants. Les conséquences de cette libéralisation ne se sont pas fait attendre. Manifestations, troubles politiques. En décembre 1981, le général Jaruzelski, nouveau chef de l'État, a dû proclamer l'état de guerre pour remettre la population au pas. Peine perdue ! Il faut dire qu'il n'est pas aidé par les circonstances internationales. Depuis 1978, c'est un pape polonais qui habite le Vatican. Et Karol Wojtyla n'est pas n'importe qui. La police collectionnait les fiches à l'égard de l'archevêque de Cracovie, flamboyant adversaire du système. Ce dangereux individu a maintenant une tribune de choix pour encourager la dissidence. Le pape Jean-Paul II a même réussi à glisser un grain de sable dans l'entente qui régnait jusqu'alors entre le fidèle général Jaruzelski et le tout-puissant chef soviétique Léonid Brejnev. En 1979, le pape a demandé à visiter la Pologne. Malgré les directives de Brejnev, Jaruzelski n'a pas osé refuser, craignant l'indignation du peuple catholique. Depuis, les relations entre la Pologne et l'URSS ne sont plus aussi cordiales. Cette fois-ci, en tout cas, Jaruzelski n'a pas renouvelé son geste d'ouverture. Désireux d'assister à la célébration de Jasna Góra, le pape s'est vu interdire ce nouveau voyage. À l'heure où Mgr Glemp célèbre la messe, le pape doit dire la sienne dans sa chapelle de Castel Gandolfo. Il a pour seule consolation de prier sous l'effigie même de la Vierge Noire de Jasna Góra, installée ici par Pie XI. À Częstochowa, sur le fauteuil où il aurait dû s'asseoir, un bouquet de fleurs symbolise sa présence. À défaut du pape, un autre visiteur a reçu la permission de se rendre à Jasna Góra, le père Borde, recteur des sanctuaires de Lourdes. Dans ses bagages, il a apporté le superbe calice de céramique façonné à l'occasion du congrès eucharistique de l'année précédente. D'une main émue, il l'offre à Mgr Glemp pour Częstochowa. En ce jour, les deux cités mariales signent un pacte d'amitié en se jumelant officiellement. Il s'agit d'un double lien puisqu'il concerne à la fois les diocèses et les municipalités. À partir d'aujourd'hui, un pont enjambe le rideau de fer pour unir 2 villes que tout rapproche, leur histoire marquée par la Vierge, les foules de pèlerins qu'elles accueillent, leur place de choix dans le cœur des papes et de l'Église tout entière. Le jumelage n'est pas seulement spirituel, il pèse son poids de vivre et de matériel. Dès ses débuts, le père Borde confie à un prêtre des sanctuaires, d'origine espagnole, le soin d'organiser un comité d'aide à la Pologne. Au moins une fois par an, le père De Antonio prendra la route avec un camion contenant 35 tonnes de produits alimentaires. Ces expéditions, épiques comme tous les voyages vers des pays captifs, tissent des liens d'amitié solides et concrets entre les villes jumelles. Le pacte noué sous la surveillance des blindés, en ce jour d'août 1982, prend fin quelques années plus tard après la libération de la Pologne. Les évêques des deux diocèses estiment alors que l'aide humanitaire doit s'achever, la population polonaise ne devant plus être assistée. Libre aux catholiques des deux villes, cependant, de rester unis par la prière, comme ils le sont par l'accueil des pèlerins. Aujourd'hui, Lourdes et Częstochowa reçoivent chacune environ 5 millions de visiteurs par an. L'histoire commune des deux cités n'est pas pour autant achevée. Le jumelage entre les municipalités perdure. À Lourdes, l'association Étoile Bleue s'occupe de faire vivre, année après année, ses liens privilégiés avec la ville polonaise. Des voyages sont organisés de part et d'autre. En 2004, les Polonais sont accueillis comme chez eux à Lourdes. En 2006, c'est au tour des Lourdais d'être reçus à bras ouverts par les habitants de Częstochowa. À chaque rencontre, préparée avec des soins fraternels, spectacles, échanges et cérémonies chaleureuses permettent aux uns et aux autres d'approfondir une relation que tous veulent voir se poursuivre. En 2008, à l'heure où Lourdes fête les 150 ans des apparitions, l'amitié avec sa sœur aînée, âgée de 626 ans, n'est pas près de s'étioler. Malgré la différence d'âge de leur sanctuaire, plus que jamais, les deux villes se sentent jumelles.
Présence.
Thank you.
Histoire de Lourdes, un rendez-vous proposé par Olivier Robert.
Un passionné d'histoire de Lourdes me montre les cartes postales et les photos de sa collection privée. Des clichés pris pour certains voilà plus d'un siècle. Sur l'un d'entre eux, je vois la rive droite du Gave, face à la grotte. C'est une immense prairie désertique bordée au nord d'une colline avec au sommet un immense bâtiment, le tout premier construit de ce côté de la rivière, le Carmel de Lourdes. En réalisant cela, je pense à Bernadette. Au cours de la période même des apparitions, son vœu le plus cher était de devenir carmélite. À cause de sa mauvaise santé, elle ne pourra jamais rejoindre cet ordre. La vue de cette photo émouvante m'évoque aussi plusieurs maisons d'accueil et de prière, à l'image du Carmel, construites à Lourdes pour des moniales au lendemain des apparitions. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé que Lourdes, c'était ça. Un cloître du ciel. 1 Maccabée 7, 37. Seigneur, c'est toi qui as choisi ce lieu pour qu'il te soit consacré et qu'il soit une maison de prière et de supplication pour ton peuple.
Ce récit est extrait du livre « Lourdes, ambassade du ciel » de Laurent Jarnot aux éditions du Toucan.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Tous les matins, l'évangile du jour est commenté par un prêtre de la région.
L'évangile.
Un rendez-vous pour se nourrir et se ressourcer à 6h50, 7h50 et 8h50.